Voilà, vous avez ouvert le troisième document son. Nous sommes toujours avec notre PowerPoint sur, troisièmement, la décontamination. Ah, enfin! Donc on a vu la rédemption qui était la clé pour tout comprendre. On a vu les trois contaminations. C'était assez lourd, assez pénible parce que c'est nocif, bien sûr, les contaminations. Et maintenant, nous allons voir les décontaminations. Ah. Compter à commencer par les critiques juives elles-mêmes. Déjà dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait une critique très ferme, nous allons voir. Puis j'expliquerai l'expression agneau de Dieu, qui est une expression très surprenante, elle aussi très complexe quand même. Et nous finirons avec Romains 12. Voilà, il n'y en a plus pour très longtemps. Mais allons-y avec ces critiques juives. On passe à la première image où nous retrouvons le temple de Jérusalem. Nombre d'idées sur le sacrifice doivent être purifiées, allégées de leur ajout ou héritage accumulé tant par les inconsciences, hein, je viens d'en parler, que par les pratiques religieuses, on en a parlé tout à l'heure aussi avec le paganisme. Les Juifs avaient déjà commencé ce travail de décontamination et le Christ l'a prolongé, mais il faut encore y travailler. En effet, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont cessé de signaler le danger de cette pratique que j'ai appelée tout à l'heure mécanique. Alors vous avez Isaïe, Amos, Osée, Jérémie et Michée qui s'en prennent assez vivement, hein, à ces critiques rituelles du sacrifice. Je ne vais pas tout citer, mais quand même un ou deux pour rappel. Par exemple, nous sommes au chapitre 11, très beau chapitre 11 d'Isaïe. Je dis très beau parce que c'est là qu'est, par exemple, le premier catalogue des promesses de l'Esprit Saint. Bon, bref. Donc, au chapitre 11, vous trouvez ceci. Alors, c'est très dur. Hein. On fait parler Dieu, hein, c'est un prophète, Isaïe. Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en peux plus, je n'y prends plus plaisir. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de vos encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi je les déteste. Elles me sont devenues un fardeau. Je suis fatigué de les porter. Quand vous étendez les mains, je détournerai les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Bon, etc. Et c'est vraiment un texte très impétueux, hein, très volcanique. Ou bien, mais il y en a d'autres, hein, dans Amos, Osée, etc. Ou bien dans le psaume 50, où il dit ceci: Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, en vérité, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ça veut dire un cœur qui se convertit. Les prophètes, déjà, donc, protestent contre le trafic des sacrifices. Non pas le fait qu'il y ait des marchands au temple, mais le fait que le sacrifice soit devenu un marchandage. À mon avis, c'est comme ça, vous voyez, qu'il faut comprendre Jésus chassant les marchands du temple. Ben, il faut bien des gens qui vendent des colombes, qui vendent des agneaux pour que les sacrifices puissent avoir lieu. Non, non, ce que le Christ vient fondamentalement critiquer, bousculer, c'est le fait que nous avons fait du sacrifice un marchandage. Alors les prophètes, ils veulent de la cohérence. Et le Christ aussi. Vous êtes pieux, vous appliquez la loi, vous pratiquez les commandements, mais pratiquez d'abord la justice avant de pratiquer les sacrifices. Voilà le sacrifice que je veux. Et donc, vous voyez, sacrifice prend une autre tournure, un autre sens plus juste. Les prophètes de l'Ancien Testament et le Christ combien plus veulent une religion de conversion et non pas une religion d'observance. Bon, prophétie que Jésus confirmera maintes et maintes fois. Donc voilà, ça c'est, j'y insiste pas, c'est une critique juive. Donc vous voyez, c'est pas le propre du christianisme que de se méfier des pratiques rituelles sacrificielles. Les Juifs l'ont fait avant nous. Alors, par contre, c'est une caractéristique, en effet, du judéo-christianisme. Et le christianisme a amplifié cette critique. On va voir un deuxième point fort intéressant, c'est l'expression agneau de Dieu. Une attention plus subtile nous est demandée peut-être avec cette expression très souvent répétée, même dans la messe, et peu réfléchie. Voici l'agneau de Dieu. Trois fois dans l'évangile de Jean, elle est répétée. Ici, vous avez une illustration d'Ivanov. L'agneau de Dieu désigne Jésus. Quelle drôle de façon de parler. L'évangéliste, Jean, la répète deux fois dans le premier chapitre. En même temps qu'il fait dire, toujours par Jean-Baptiste, « Je ne le connaissais pas ». Ben, il le connaît très bien, c'est son cousin. Et on est dans une famille juive, hein, donc les cousins, les oncles, les arrière-grand-oncles, ça compte. Donc il le connaît. Mais ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne saisit pas, c'est Dieu fait homme. Et c'est dans le même esprit qu'il faut comprendre cette drôle d'appellation « agneau de Dieu ». Jean la suggère, sans la redire une troisième fois, lors de la passion du Christ. Vous le voyez sur cette image de Grunewald sur le retable d'Issenheim. C'est en effet à l'heure, et ça c'est propre à Saint Jean, hein. D'ailleurs l'expression « agneau de Dieu » est uniquement chez Jean. C'est à l'heure où les agneaux de Pâques sont sacrifiés au temple que Jésus est en même temps crucifié. Et donc voici l'agneau de Dieu une troisième fois. Et donc Grunewald, s'il n'est pas trompé, vous voyez, qui met au pied de la croix Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort depuis belle lurette, hein, quand Jésus meurt sur la croix. Il a été exécuté par Hérode. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut donc dire là que Grunewald a parfaitement compris ces trois mentions de l'agneau de Dieu dans Saint Jean. Et donc, la signification de ce mot « agneau de Dieu », de cette appellation « agneau de Dieu ». Bien, nous allons à Vézelay, et vous regardez une ribambelle sur le trumeau, sur le linteau, vous voyez une ribambelle de gens qui viennent apporter des sacrifices au temple, à gauche. Et là, devant nous, sur le trumeau, vous avez Saint Jean-Baptiste, et qui présente sur un plat l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, vous venez avec vos petits sacrifices, dont je vous ai dit maintes fois que j'en avais marre. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Vous n'allez quand même pas prétendre que vos petits sacrifices, quand ce sont des agneaux pour les plus riches, quand ce sont des colombes pour les plus pauvres, font poids par rapport à l'agneau de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne valent plus rien, mais ça veut dire quand même qu'il ne valent plus grand-chose. Donc voilà un détail, des ribambelles de sacrifices, il y en a qui offrent des bœufs quand même, hein, un autre qui offre un poisson, on fait ce qu'on peut. Et alors quatre strates hein, pour bien expliquer ça. Premièrement, quatre strates, c'est-à-dire 3 plus 1, vous vous souvenez du procédé rabbinique. Premièrement, l'agneau de Dieu, première strate, ça veut dire donc que tous les autres sacrifices ne valent plus grand-chose. Pédagogiquement, ils peuvent aider à faire participer à l'unique sacrifice. Voici l'agneau de Dieu. Il n'y en a pas 40, hein. C'est lui, voici l'agneau de Dieu. Ensuite, seconde trace, c'est un sacrifice unique, pas besoin d'y revenir, comme tous vos rites qui puent le sang et la tripe. Troisième strate, j'ai fait une erreur en sonnant, on est toujours sur Vézelay. Troisième strate, ce n'est pas un sacrifice qui est offert à Dieu pour l'apaiser. Ce n'est pas un sacrifice qui vient de vous pour apaiser Dieu ou pour obtenir le pardon, comme dans vos marchandages rituels. D'où j'ai trois points à te dire et un quatrième. Cette fois-ci, vous êtes sur l'image de Joseph qui tient le petit Jésus, de Guido. D'où le quatrième strate, c'est l'agneau de Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est pas vous qui faites un sacrifice à Dieu, c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui s'offre. Vous voyez, c'est par un sacrifice au sens de don total de ce qu'il est, que Dieu se donne. Voilà, c'est ça l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voilà ce que ça veut dire. C'est donc lui-même qui vient offrir aux hommes ce qu'il est. Or, ce qu'il donne de plus essentiel, ce n'est pas un paquet de souffrances, qu'il offrirait à qui d'ailleurs. Non, ce qu'il offre, c'est qu'il brise l'enfermement de la mort. Et donc, vous voyez que toutes ces notions de, voici un gros paquet de nœuds d'une corde nouée, hein, indémêlable, toutes ces notions, vous voyez, que je viens d'exposer, à laquelle je viens de rajouter en plus celle de l'agneau de Dieu, sont extraordinairement mêlées. Et ça va être très difficile, hein, y compris à cause de notre inconscient, ça va être très difficile de les démêler. Voilà, donc c'est... pour garder une idée, hein, Jésus est mort, non pas pour expier à la place de tous, parce qu'en effet, on doit douter de la nécessité d'expier, de payer, d'en baver, pour satisfaire Dieu. Ça, oui, il faut en douter. De même, le Christ n'est pas mort à notre place, parce que tous, nous continuons à mourir, vous l'avez probablement remarqué. De même qu'il n'efface pas les péchés, parce que ça continue sérieusement à déraper dans notre humanité. Il y a toujours le péché. Non, il est venu par sa passion, par sa mort, et surtout par sa résurrection, forcer les portes de l'enfermement sur le mal et sur la mort. Il est venu briser les portes de cette logique qui nous enferme dans le mal. Alors là, j'ai trouvé une photo, un peu un gag, hein, vous savez, ce sont deux cabarets qu'il y avait à Montmartre. Celui-ci, vous voyez, le cabaret s'appelle l'Enfer, avec une porte extraordinaire. Et le gars s'était mis là, pourquoi? Parce que juste à côté, il y avait un autre cabaret qui s'appelait le Ciel. Et donc, il faisait de la concurrence au Ciel en proposant l'Enfer. Bon, voilà, c'est un petit gag. Mais ce sont donc les portes du mal, de l'enfer, si vous voulez, que le Christ vient, en effet, par sa mort et sa résurrection, qu'il vient briser. Encore un point pour finir cette méditation sur l'agneau. Elle nous vient de Ratzinger. Il a une très belle remarque. Il dit « L'agneau doit être pur pour être offert dans les rituels juifs. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ça, Ratzinger, dans le livre « Jésus, Jésus de Nazareth », page 263. C'est un bon bouquin, hein, ça, vraiment, je vous le conseille. Il dit ceci. « Dans la passion de Jésus, toute l'abjection du monde entre en contact avec l'immensément pur. Si habituellement, dans les pratiques juives, une chose impure contamine par contact et souille ce qui est pur, nous avons ici le contraire. Là où le monde, avec toute son injustice et ses cruautés qui le souillent, entre en contact avec l'immensément pur, là, lui, le pur, se révèle en même temps le plus fort. En ce contact, la souillure du monde est réellement absorbée, annulée, transformée à travers l'amour infini. » Et vous voyez, on contracte une pureté par l'infiniment pur qui vient subir ce qui nous avilit. Voilà, une très belle réflexion de Ratzinger. Alors voilà, je finis avec cette petite mention qui est une forme de décontamination également, hein. C'est l'idée d'un sacrifice spirituel, un sacrifice existentiel, qui est déjà évidemment en prémisse dans l'Ancien Testament. Je vous ai fait une ou deux citations. J'aurais pu en parler dans le dossier de la contestation juive des sacrifices juifs. Ici, vous avez une image du sacrifice d'Isaac, ou bien sacrifice d'Abraham, ou encore la ligature d'Isaac, Genèse, chapitre 22. Déjà là, vous le savez probablement, hein, il y a une contestation des sacrifices tels qu'on les pensait à l'époque, dans les religions premières. Dieu ne veut pas de ça. Et il fait comprendre à Abraham que c'est un sacrifice spirituel qu'il lui demandait, en fait. Il fallait qu'Abraham renonce à sa paternité, surtout la paternité comme on l'entendait à l'époque, hein, c'est-à-dire le fils, il doit tout à son père, quoi. Le père est, mise tout sur le fils. Le fils, c'est le capital du père. Et bien ça, il doit renoncer. Pour laisser Isaac devenir celui par qui Dieu va bénir les peuples. Et celui par qui la descendance d'Abraham sera nombreuse. Autrement dit, il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac. Et Abraham comprend, bah, très bien, je vais l'égorger. Mais non, sacrifie-le, c'est-à-dire abandonne ta toute puissance paternelle et confie-le-moi, fais de lui mon outil. Ah, c'est le sacrifice spirituel que Dieu lui demandait. Et bon, et les Juifs donc mettent à l'honneur ce texte dans le sens que je viens de vous dire, hein, c'est l'interdit absolu des sacrifices humains, bien sûr, et c'est la promotion du sacrifice spirituel. Le problème, quand on dit sacrifice, c'est qu'on pense expiation, réparation, punition, privation, souffrance. Mais il faudrait plutôt comprendre offrande, oblation, ouverture, conformation, conversion, accomplissement. Et donc, c'est quelque chose qui s'ouvre sur la vie. Allons voir donc ce que dit saint Paul, et on finira avec ça. Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » Donc voilà, c'est ça le sacrifice que Dieu veut. C'est-à-dire, tout à l'heure je vous l'ai déjà dit, hein, offrir, ouvrir. Et c'est par la tendresse de Dieu, hein. C'est pas par la colère de Dieu. Et c'est pas un sacrifice sanglant, c'est un sacrifice vivant. C'est-à-dire, il s'agit d'ouvrir vos vies, d'offrir vos vies. D'offrir vos vies de telle manière à ce qu'elles puissent s'emplir de la présence de Dieu. Voilà le vrai culte. Voilà le vrai sacrifice. Bon ben voilà, on s'arrête avec cette conclusion. Et sur un chapitre difficile, hein. Et donc la prochaine fois, ce sera dans 3 semaines, bon j'espère que ce sera cette fois-ci que les moyens techniques ne nous abandonneront pas, je vais essayer de trouver un nouveau bloc secteur pour alimenter mon ordinateur. Voilà, donc bonne écoute de secours, et on se revoit après les vacances, 15 jours de vacances, et on se retrouve ensuite. Allez, au revoir, merci à tous et à bientôt.